Mesdames et messieurs, chers publics, consacrer un colloque au droit souple ne revient-il pas à nager à contre-courant en pleine vague de durcissement des mesures? Serait-ce à dire que la souplesse aurait failli et que nous serions condamnés à un droit de plus en plus dur pour combattre efficacement cette pandémie? À ce stade de croissance exponentielle du Covid, une réponse d'espoir me fait pourtant espérer que non. Une réponse honnête me fait dire que je ne sais pas, et une réponse à titre d'hypothèse de travail me fait dire que le droit doit être, sur le long terme, en plagiant un certain conseiller général, aussi souple que possible et aussi dur que nécessaire. Mon hypothèse de travail relative à l'efficacité du droit souple est que celui-ci doit s'articuler avec le droit dur selon les trois axes suivants. Pour être efficace, tout d'abord, le droit doit devenir souple lorsque le contexte l'empêche d'être efficace par les moyens du droit dur. Deux, lorsque pour être efficace, le droit doit être dur, alors le droit souple est un moyen efficace, soit pour le durcir progressivement, j'y reviendrai, soit pour aider à le mettre en œuvre, j'y reviendrai également. Trois, rappelons que l'efficacité n'est pas forcément corrélée à la nature sûre, dur ou souple du droit. Tant l'un que l'autre peuvent être aussi efficaces qu'inefficaces en fonction des circonstances. Dès lors, l'efficacité optimale ne peut résulter que d'une combinaison adéquate d'instruments divers, un policy mix pour le dire à l'anglo-saxonne. Je vais diviser mon exposé dans les trois parties suivantes. Définition, efficacité et légitimité du droit souple et de la co-régulation. Définition tout d'abord. Le droit souple présente une composante soit formelle, c'est-à-dire qui se rapporte au contenant, instrumentum, soit matérielle, c'est-à-dire qui se rapporte au contenu de la norme, le negotium. Dans le premier cas, formel, on peut définir des droits et obligations souples comme des normes qui n'obligent pas juridiquement, c'est-à-dire qui contiennent uniquement des modèles de référence à suivre selon la libre appréciation de leur destinataire. En d'autres termes, des recommandations et non des commandements. Le critère de distinction déterminant est la nature obligatoire de la norme en question et non pas la présence d'une sanction, pénale notamment. Par exemple, la recommandation de ne pas se réunir pour Halloween comme faite par le Conseil d'État neuchâtelois. Dans sa variante matérielle, les règles de droit classiques demeurent juridiquement du droit dur, mais sont assouplies quant à leur contenu en raison de la diminution de la densité normative, de l'existence de dérogations, etc. Par exemple, la recommandation de télétravail ainsi rédigée en droit genevois, je cite, les employeurs veillent à ce que les activités en présentiel soient limitées au minimum indispensable. Je me concentrerai dans la suite de cet exposé sur la seule variante formelle. Le droit souple, formel donc, possède, mesdames et messieurs, une normativité spécifique que la doctrine qualifie d'effet permissif et qui permet de comprendre pourquoi le droit souple relève bel et bien du droit et non simplement de la sociologie ou de la politique. La recommandation de, comme vous le voyez dans le tableau ici à plusieurs reprises, contient de manière indirecte le droit de. Ainsi, je prends un exemple. La recommandation d'une autorité de rouler les phares allumés durant la journée comprend le droit de la personne au volant d'enclencher les feux de sa voiture. Droit qu'elle peut juridiquement faire valoir à l'encontre d'automobilistes qui lui reprocherait de les avoir éblouis dans l'hypothèse d'une éventuelle action en responsabilité à la suite d'un accident. En effet, si le fait de suivre une recommandation devait constituer un comportement illicite, c'est alors la recommandation elle-même qui serait contraire au droit. Cet argument est de nature, selon moi, à justifier un contrôle juridictionnel de tels actes lorsque leur conformité au droit est mise en doute. Le législateur peut même codifier cet effet permissif en posant une interdiction d'entraver la possibilité de respecter une recommandation. Il l'a fait à destination des employeurs à propos des gestes barrières anti-Covid et du télétravail, en exigeant, vous le voyez ici, de l'employeur de garantir que les employés puissent respecter les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique en matière d'hygiène et de distance, notamment. On trouve du droit souple, non seulement en droit public, l'exemple des gestes barrières, mais en droit international public également, on le verra, avec l'exposé de la professeure Dagron, ainsi qu'en droit pénal, comme l'exemple de la recommandation sur les peines pour infraction Covid de la conférence des procureurs de Suisse le montre. Vous le voyez dans la note, ici, les recommandations de cet organisme interconsonal sont des outils de travail non contraignants, des instruments facultatifs sur lesquels se baser pour juger et qui ne confèrent aucun droit. Et c'est écrit dans la recommandation. On trouve les recommandations sous diverses appellations dans les différents instruments d'action, publics ou privés, explicitement ou implicitement. Vous avez sous les yeux une liste que je ne vais pas détailler, mais c'était simplement pour vous donner une idée de la variété instrumentale. En droit privé, par exemple, les parties peuvent se lier de manière plus large par des arrangements ou d'autres actes sans force obligatoire ou avec une force obligatoire relative, comme nous le montrera le professeur Pichena. Des organismes privés, à l'instar des organismes de normalisation, tels l'ISO, basé à Genève, peuvent aussi produire des normes pouvant être mises à disposition des entreprises et d'autres personnes intéressées, désireuses de s'y conformer. Ces normes ne lient pas en soi, mais peuvent accéder à la juridicité si des clauses d'impérativité, contractuelles ou légales, ou si les tribunaux le décident. On entre là dans le domaine de l'auto et de la co-régulation que l'on va voir avec Maître Fournier. S'agissant d'un autre élément de co-régulation, la docteur Gilly nous exposera le cas des directives privées médicales relatives au triage des patients et des patients de Covid aux soins intensifs. On citera également d'autres exemples que vous avez sous les yeux concernant les masques en tissu, la libre circulation des voyageurs ou le contrôle électronique de l'identité de la clientèle dans les restaurants. Pour augmenter le respect du droit souple, les autorités peuvent recourir à des actes d'exécution non forcée, comme je propose de les nommer, en mettant à profit les expériences menées dans le champ des sciences affectives et comportementales, appliquer les techniques, nudges, coup de pouce, par exemple, comme la mise à disposition de gels désinfectants un peu partout ou les marquages au sol dans les commerces ou les restaurants. La professeure Siboni nous exposera plus en détail ce thème. La peur, voire la panique, mesdames et messieurs, que suscite ces jours l'engorgement des hôpitaux, a pour effet que chacune et chacun d'entre nous se désinfecte probablement bien plus soigneusement les mains, et ceci plusieurs fois par jour, tout en réfléchissant à deux reprises avant de s'agripper une part dans le bus sans qu'une pénale ne soit nécessaire pour cela. Rousseau prônait déjà l'amour des lois afin d'en assurer le respect. Faisons-en de même pour le droit souple. N'est-il en effet pas préférable d'adhérer par résolution personnelle plutôt que d'obéir par crainte du châtiment, comme l'expliquait déjà saint Paul dans l'Épître aux Romains, où il distinguait l'obéissance propter consentiam de l'obéissance propter iram. Mais comment faire aimer, mesdames et messieurs, certaines mesures dans une crise telle que celle du Covid, où l'incertitude scientifique règne en maître? Les circonvolutions autour du port du masque sont emblématiques. Lorsque la science erre, le risque est grand que la loi, sous coup dur, ne titube. Le tribunal fédéral a souligné l'importance de l'adhésion des destinataires à une mesure en rapport avec leur effectivité. Il l'a précisé à propos du principe de précaution en droit de l'environnement, transposable, à mon sens, mutatis mutandis au droit sanitaire qui nous occupe actuellement. C'est ATF 132.2 que vous avez sous les yeux, est essentiel pour juger de la proportionnalité des mesures de comportement prises pour lutter contre le COVID-19. Il conduit, 1. À préférer le droit souple lorsque le droit dur n'est pas nécessaire, 2. À ne pas débuter par du droit dur si du droit souple suffit potentiellement, et 3. À nous mettre en garde contre un risque d'ineffectivité si du droit dur est introduit sans habituation progressive ni conviction personnelle. Les actes de nature recommandationnelle intéressent les juristes également parce qu'ils peuvent produire de véritables effets de nature juridique et devenir même, c'est a priori surprenant, obligatoires. Des effets juridiques semi-obligatoires peuvent être attribués par le législateur, un tribunal ou les parties à un contrat. C'est la colonne de gauche. Et prenons quelques exemples de points d'appui législatifs et puis ensuite judiciaires semi-obligatoires. Deux points d'appui législatif. Ici, le législateur qui recommande l'utilisation d'applications de traçage des contacts aux restaurateurs, comme au droit neuchâtelois. Ou bien la loi fédérale sur les épidémies qui exige du Conseil fédéral de définir les stratégies contre les maladies transmissibles en tenant compte des recommandations et des directives internationales. Tenir compte n'équivaut en effet pas à se conformer à, d'où l'effet semi-obligatoire des recommandations de l'OMS en droit suisse dont nous parlera la professeure Dagon. Deux exemples maintenant de points d'appui judiciaires qui confèrent également un effet semi-obligatoire. Lorsqu'un tribunal juge qu'une recommandation spécifique publique ou privée doit s'appliquer pour définir les limites de la négligence ou de l'imprudence dans le contexte de la responsabilité civile, pénale, administrative, les destinataires de la recommandation ne sont certes pas liés juridiquement à la recommandation, mais seront dans les faits fort hésitant à refuser de les suivre. On pourrait ainsi imaginer une telle responsabilité en cas de transmission du Covid par quelqu'un qui n'aurait délibérément pas éternué dans son coude, c'est-à-dire n'aurait pas suivi la recommandation de l'OFSP sur ce point. Deuxième exemple que vous avez avec les recommandations du Conseil de l'Europe, les actes de droit souple peuvent être utilisés par les autorités administratives ou les tribunaux pour interpréter des concepts juridiques indéterminés. Passons maintenant à la seconde colonne pour relever un phénomène a priori paradoxal. Le droit souple peut même devenir obligatoire dans certaines circonstances, alors notamment par la loi, dans le cas d'une déclaration de force obligatoire, vous en avez un exemple en droit pandémique sous les yeux, ou de renvoi dans le cadre de clauses d'impérativité à effet obligatoire. Par cette dernière technique légistique, la loi impose par exemple l'obligation de se conformer à une recommandation, ne laissant au destinataire aucun choix de refus. Ainsi, c'est l'exemple que je prends, si vous voulez importer en Suisse un pangolin vivant prélevé dans la nature, vous devrez prouver aux autorités que vous le détiendrez chez vous dans une cage conforme aux recommandations du comité d'experts de la CITES. La clause de renvoi doit, il est vrai, être interprétée pour déterminer si le texte auquel il est renvoyé doit être obligatoirement respecté ou relativement seulement. Un exemple très intriguant nous est livré par l'article 3 de l'ordonnance COVID-19 du Conseil fédéral, que j'interprète à première lecture comme une clause de renvoi à effet obligatoire, pour autant que je m'en tienne à une interprétation littérale, en tous les cas dans la version italienne et française. Je cite « Chacun respecte et achtet rispetta les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de conduite face à l'épidémie de COVID-19. » Le présent de l'indicatif étant un impératif en légistique, la phrase est à lire ainsi. Chaque personne doit respecter les recommandations de l'OFSP. Ces petites vignettes colorées vous a fait sous les yeux, ne serait-elle donc pas de véritables règles de droit obligatoires, dépourvues de sanctions pénales, certes, mais, comme je l'ai déjà précisé, une lex, même imperfecta, n'est pas, dans son sens formel du moins, une lex mollis, mais bien une lex dura, assouplie. On peut trouver d'autres effets obligatoires autour de la recommandation. Par exemple, une obligation de recommander, ou la source d'obligations économiques. Par exemple, vous l'avez sous les yeux, l'obligation faite au restaurateur bernois de recommander l'utilisation de l'application suisse COVID sous peine de sanctions pénales. Ou l'obligation de rembourser les tests rapides, mais uniquement s'ils ont été utilisés conformément aux recommandations de l'OFSP. Après l'efficacité, j'aborde à présent la question de la fonction du droit souple. Les actes de droit souple peuvent être utilisés en amont, en aval ou à la place du droit dur. Dans le premier cas de figure, pre-law, les destinataires sont familiarisés tout en douceur aux nouvelles normes de comportement qui, lorsque celles-ci auront atteint leur bon degré de maturité, c'est-à-dire seront mûres, pour muter en règles obligatoires. Et les exemples sont légions. Je pense à l'interdiction de fumer ou à la reine des droits fondamentaux contemporains, la Déclaration universelle des droits de l'homme. En droit pandémique, on peut citer le port du masque, devenu progressivement obligatoire, après avoir été d'abord dérecommandé, puis recommandé, puis obligé, ou la désinfection des mains, désormais, par exemple, obligatoire en droit genevois pour entrer dans un établissement encore ouvert. En matière sanitaire, de fédéralisme sanitaire plus précisément, la Confédération et les cantons ont décidé la semaine dernière de la stratégie à suivre en vue des mois d'automne et d'hiver à venir. Ce concept prévoit une montée en puissance juridique des mesures, en commençant par des recommandations intercantonales qui devraient se concrétiser en actes normatifs obligatoires cantonaux, puis fédéraux, si la progression de la maladie devait faire totalement dérailler le concept initial. La deuxième hypothèse, post-law, montre un droit souple fort utile pour aider à mettre en œuvre le droit. La troisième hypothèse, celle du contournement, para-law, est en revanche plus problématique. Pourquoi ? Parce que le droit souple est utilisé ici pour contourner les procédures d'absorption du droit dur, soit en raison de difficultés politiques, soit en raison de difficultés juridiques. L'exposé de la docteure Gilly sur l'exigence de base légale en rapport avec les normes médicales privées mettra très certainement ce problème en exergue. Terminons maintenant, mesdames et messieurs, avec la délicate question de la légitimité du droit souple. La légitimité du droit souple doit être renforcée dans la mesure où ce droit, on l'a vu, est susceptible de produire un certain nombre d'effets juridiques, semi-juridiques ou non. L'efficacité ne saurait, en effet, justifier de possibles contournements des principes de l'état de droit démocratique. La doctrine et la jurisprudence, en certains cas, on en déduit la nécessité d'une formalisation adéquate et de contrôle adapté, juridictionnel ou non. La formalisation procédurale, tout d'abord, passe par l'implémentation du principe de transparence, de participation, de publicité, de gratuité pour les normes privées, etc. Quant au contrôle, il peut être politique ou souple, à l'exemple des procédures d'évaluation, de conciliation, et de médiation en rapport avec de tels actes d'ordre juridique peut parfois mettre en œuvre. Enfin, l'ordre juridique doit également offrir une protection juridique adéquate, laquelle découle, en droit suisse, de la garantie constitutionnelle du droit d'accès aux juges, concrétisée en droit public par le contrôle juridictionnel des actes matériels dont le droit souple fait partie, comme le TF l'a rappelé récemment à propos d'une campagne anti-sida. La pratique du TF n'est pas toujours cohérente, n'ayant pas jugé attaquable une recommandation de la FINMA adressée à un organisme d'autorégulation. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé quant à elle que des organismes privés auxquels un pouvoir législatif ou réglementaire était conféré devaient rendre compte de leur activité, ce qui implique une exigence de transparence, notamment. Elle a également récemment jugé, dans Moutou et Pechstein contre Suisse, que les procédures d'arbitrage devant le Tribunal international du sport devaient offrir toutes les garanties d'un procès équitable de l'article 6, alinéa 1er de la CEDH. En droit de l'Union européenne, enfin, si la Cour de justice s'est déclarée compétente pour interpréter une norme privée publiée au journal officiel à propos de l'exécution d'un contrat de droit privé, elle a, au contraire, jugé qu'une recommandation sur les jeux de hasard en ligne n'était pas un acte attaquable au sens de l'article 263 du traité. En synthèse, je dirais en conclusion que tout est une question d'équilibre. Si la formalisation est excessive, au point de ne presque plus faire de différence entre un acte de droit libre et un acte de droit souple, elle risque d'être contre-productive en termes d'efficacité. À l'opposé, l'insuffisance de garanties procédurales ou de voies de droit est tout aussi problématique en termes de légitimité, puisque la recherche de l'efficacité ne saurait tout justifier. Pour conclure, mesdames et messieurs, si j'ai dit en introduction que le droit devait être aussi souple que possible et aussi dur que nécessaire pour être efficace et proportionné, je terminerai cet exposé en concluant que le droit souple doit être aussi informel que possible et aussi formalisé que nécessaire pour concilier légitimité et efficacité. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.